Terre au Carré, c'est Pedro à Aix en Charente. Je suis éleveur. Je réagis à l'émission sur les déchets de Marseille. Pour ma part, j'ai traversé une partie de la France à pied via le massif central de la Charente jusqu'en Ariège. Et l'endroit où la terre était la plus sale, c'était dans les fermes, autour de ce qu'on appelle les exploitations agricoles. Alors moi qui suis paysan aujourd'hui, j'ai décidé qu'au 31 décembre 2022, on n'aura plus de plastique à usage unique sur notre ferme. Voilà, allez, à bientôt, ciao.
Oui, bonjour, Florence de Créteil. Moi, concernant l'alimentation, ma question principale, c'était de me dire mais de quoi j'ai besoin exactement pour faire marcher ma machine. Non, parce que je pense que apprendre à savoir exactement ce qu'il faut manger et ce qui suffit pour qu'un organisme fonctionne bien en fonction de l'âge, du climat, de la sédentarité, voilà. Donc il me semble que la première chose, même avant tout, c'est de savoir mais de quoi avons-nous besoin exactement, en quantité, un métier à développer en tous les cas. Merci pour vos émissions et à très bientôt. Au revoir.
Bonjour, c'est Romain de Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Donc, m'a transmis vos coordonnées, je connais un peu l'émission. Je sais que vous relayez des initiatives locales. Alors, nous avons créé récemment un collectif de plusieurs associations et groupes citoyens pour préserver les terres et la nature. Et on organise un événement vendredi 15 octobre. En fait, on va faire, il y a un projet d'extension du port sur notre commune et de révision du PLU avec de nombreuses urbanisations de terres naturelles. Et nous, on voudrait organiser une concertation alternative citoyenne auprès des habitants pour collecter leur opinion. Donc voilà, on aimerait créer notre propre concertation et communiquer dessus. Merci.
Bonjour la Terre au Carré, c'est Lucie depuis l'Eure-et-Loire. Bon, c'est bien loin d'être un département en bienveillance environnementale, mais nous faisons de notre mieux à notre niveau et autour de nous. J'ai fait des études en environnement et donc votre émission est le prolongement idéal de celle-ci. Merci aussi pour vos podcasts, car je vous écoute soit en jardinant, soit lors des trajets en voiture avec mes enfants, enfants qui sont déjà des graines d'écolos et de militants. Bon après-midi.
Bonjour, c'est Alia, j'ai 8 ans et j'adore les Odyssées et Olba et grâce à vous, j'ai déjà un potager.
Le répondeur de la Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
Et aujourd'hui, 11 octobre, eh bien, c'est le coup d'envoi en visioconférence de la COP15 sur la biodiversité en Chine avec une série de négociations qui devraient être cruciales pour la protection de la nature et du vivant. C'est dans les années 80 qu'est né le terme de biodiversité. Le mot a été créé pour exprimer justement la diversité biologique et il inclut tous les organismes du cafard au maïs en passant par les champignons, les bactéries et aussi nous, bien sûr, les humains. Et même si ce terme comporte quelques inconvénients, on en parlera, il semble mieux refléter le monde dans lequel nous vivons que le mot de nature qui a été très discuté et contesté. Pour autant, notre perception de la biodiversité semble encore limitée avec des connaissances qui ne reflètent pas l'ampleur du vivant, avec une mobilisation encore très en deçà des enjeux réels. Comment parvenir à sensibiliser justement à cette crise de la biodiversité et à protéger eh bien, ce qu'on ne voit pas toujours? C'est l'objet de notre Terre au Carré avec mes invités, le chercheur évolutionniste Philippe Grandcola avec nous en studio. Bonjour. Et en duplex de Montpellier, la philosophe de l'environnement Virginie Maryse. Bonjour à vous.
Bonjour.
On va se retrouver dans un instant pour essayer de comprendre donc ce que nous percevons vraiment de la biodiversité avec les messages, les témoignages, les questions des auditrices et auditeurs, la page de la Terre au Carré pour nous rejoindre, les réseaux sociaux et l'appli France Inter avec, comme chaque jour, vos notes vocales dans l'émission. 14h30, Camille Passauvert. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Au programme.
Je suis allée à une manifestation hier, une manifestation contre l'artificialisation, la bétonisation des terres fertiles en Île-de-France.
Et voilà pour le sommaire de l'émission réalisé par Valérie Ayestaraï, préparée par Anna Massardi, Leonardo Kahn pour les réseaux sociaux et Florian Dorimini à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. sur France Inter.
Les plantes, les champignons, les animaux, sans oublier les hommes. C'est tout cela la biodiversité. Et même plus encore, puisque ce sont aussi les lacs, les montagnes, les forêts. La biodiversité, c'est donc l'ensemble des êtres vivants et des milieux naturels. Mais également toutes les relations qui s'établissent entre eux. Car rien sur Terre ne vit dans une bulle, sans lien avec les autres espèces ou avec son lieu d'habitation. Ainsi, la biodiversité représente un trésor d'équilibre où chaque élément a son utilité.
Extrait de YouTube Kids, un jour, une question. Philippe Goncola, je vous voyais réagir à ce qu'on entendait. Est-ce que sur cette définition d'introduction, vous êtes à peu près d'accord sur les grandes lignes ?
Tout à fait d'accord sur les grandes lignes, ouais. Oui, ça résume bien la situation.
Alors vous êtes systématicien évolutionniste, directeur de recherche au CNRS, vous êtes responsable de l'Institut de systématique biodiversité évolution au Muséum National d'Histoire Naturelle, et vous venez nous voir aujourd'hui à l'occasion de la parution de ce livre, Le sourire du pangolin ou comment mesurer la puissance de la biodiversité. C'est aux éditions justement du CNRS. C'est quoi un systématicien évolutionniste, s'il vous plaît ?
Alors, c'est tout simplement quelqu'un qui décrit les éléments de la biodiversité et qui les organise en relation de parenté et en classification, de manière qu'on puisse échanger des informations à propos de tout ce qui est vivant. Et évidemment, ces systèmes de parenté sont des systèmes qui sont issus de l'évolution. Donc, de fait, on ne peut pas être biologiste de l'évolution sans être systématicien et vice-versa.
Mais c'est histoire de ranger les choses proprement dans des tiroirs. C'est possible de le faire avec toutes les espèces vivantes ?
Alors, c'est pas tant finalement un rangement un peu maniaque de collectionneur, ouais, qu'une nécessité pour échanger des informations. C'est vrai, quand on parle du vivant, on est obligé de parler de noms d'espèces. On ne peut pas utiliser des circonlocutions, on va dire l'organisme qui a telle taille, telle couleur, etc. On est obligé de parler de quelque chose qui ressemble à un nom, et évidemment il faut que ces noms soient partagés par l'ensemble de la société, hein, qu'il s'agisse du scientifique qui les étudie au laboratoire, de l'écologue sur le terrain, ou du jardinier ou de l'aménageur qui a besoin de les utiliser dans la vie quotidienne.
Virginie Maryse, vous êtes directrice de recherche vous en philosophie de l'environnement, vous travaillez au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier, vous avez publié, on en avait parlé en 2010 au seuil, la part sauvage du monde, penser la nature dans l'anthropocène. Est-ce que vous aimez ce mot de biodiversité, vous, Virginie Maryse ?
Oui, je l'aime beaucoup et j'ai beaucoup travaillé sur ce mot. Alors c'est vrai que si on repense à la petite définition, la petite capsule d'introduction,
oui,
au départ, la biodiversité, c'était tout de même la diversité du vivant. Donc c'est pas nécessairement tout le vivant, mais cette propriété un petit peu magique et spectaculaire qui est son extrême diversité, complexité, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de biodiversité de façon un peu plus lâche pour désigner quelque chose comme le vivant dans sa diversité.
Ouais.
Je l'aime assez. Après, dans le cours de l'émission, on reviendra peut-être sur certains de ses défauts. Et entre autres, pendant longtemps, on a pu lui reprocher peut-être d'avoir une saveur un peu trop scientifique,
ouais,
et de cantonner la question du rapport à la nature et des extinctions et du péril sur le vivant à des sphères très scientifiques, techniques, peut-être difficilement mobilisables par le grand public. Je pense que ce défaut est un petit peu dépassé aujourd'hui et qu'on arrive même au sein du grand public à parler de biodiversité sans avoir l'air de savants fous qui utilisent des termes que personne ne comprend.
Ouais. Et pourquoi c'est mieux que nature finalement d'utiliser ce mot de biodiversité aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça a apporté ?
Alors peut-être que je vais laisser Philippe répondre là-dessus parce qu'il le justifie dans son livre. Moi personnellement, justement dans mon dernier livre, j'ai pris le parti de revenir au terme de nature,
eh oui,
qui me semble véhiculer quelque chose de très profond, de très commun, qui a aussi la possibilité de désigner les éléments abiotiques, l'eau, l'air, quelque chose d'un peu plus large que simplement le vivant sous son aspect diversifié. Donc moi, je milite un petit peu pour un retour d'affection pour le terme de nature. Mais Philippe a quelques bons arguments, ouais, tout de même pour préférer la biodiversité.
C'est ça. C'est quoi vos réserves justement ? C'est sur le fait excluant par exemple d'une espèce comme la nôtre dans ce terme de nature ?
Oui, et puis nature, ça a aussi eu des connotations un peu romantiques, hein, propres à, disons, aux civilisations occidentales, le fameux naturalisme, voilà, qui a été mis en avant par Philippe Descola. On considère la nature de laquelle l'homme est exclu, comme un grand théâtre où se trouvent des organismes, l'enfer vert, etc. Ou alors le paradis terrestre, je ne sais pas, mais les deux, on les a perdus, on ne peut pas y vivre.
Ouais.
Donc, mais effectivement, Virginie a raison, malgré tout, nature et biodiversité sont des termes qui sont usuels et bien sûr qui continuent à être employés. Il faut, je pense, jouer un peu sur les deux registres en fonction, effectivement, de ce que l'on veut dire exactement.
Biodiversité moyennement par les enfants, par exemple. Justement, le son de départ s'adressait aux enfants. Il n'y a pas un enfant aujourd'hui qui parle de biodiversité. Ou alors, je vais écarquiller les yeux, non ?
Ben, je me demande vraiment, ah ouais, oui, finalement, si moi j'ai fait des séances de formation pour des professeurs du secondaire, justement, qui...
Secondaire, mais primaire, à l'école primaire, par exemple.
Primaire, ben, écoutez, peut-être qu'on peut espérer, peut-être que la transmission du savoir se fasse vers les chères têtes blondes, encore un peu plus vers leur jeune âge. Je ne suis pas sûr que ce terme, justement, soit aujourd'hui restreint au milieu académique. Il a eu un petit peu de temps pour percer, hein. Il date quand même des années 80, donc on est 40 ans après. Et aujourd'hui, je pense qu'il a le gros avantage, surtout, de nous rappeler que le vivant est divers. C'est-à-dire que, bien sûr, on a tous quelque chose en commun, hein, l'héritage d'un ancêtre commun. Mais voilà, là, il n'y a pas quelques animaux de laboratoire, l'homme, et puis le reste indifférencié, que l'on maîtrise parfaitement, ce qui évidemment est assez faux.
Bon, en tout cas, on pourrait parler pendant longtemps de ce problème d'appellation, tout simplement de vocable, hein, autour de la biodiversité. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce thème de la représentation de la biodiversité qui est au cœur de notre thématique là cet après-midi. Pourquoi le sourire du pangolin? Alors, c'est quoi finalement la morse de votre réflexion là, sur votre dernier livre, Philippe?
Parce que finalement, la biodiversité, on y pense et on oublie. C'est quelque chose dont on parle à un moment critique. Par exemple, au moment de l'épidémie de la Covid-19, pangolin, on s'est aperçu qu'il hébergeait des coronavirus. On a pensé un temps qu'il était impliqué dans une recombinaison virale. Mm-hmm. Peut-être d'ailleurs encore, tout ça n'est pas encore évidemment complètement connu dans tous ces détails. Il faudra quelques années de plus. Et puis, aujourd'hui, on parle d'autres événements importants, comme par exemple, il y a quelques semaines, le congrès de l'IUCN. Et à chaque fois, on a un focus très important sur ces événements qui marquent la Terre entière. Et puis finalement, on oublie ce dont il s'agit. Et moi, pour moi, le pangolin était vraiment la métaphore de notre rapport à la biodiversité. Très importante, on l'aime finalement quelque part, hein. On ressent une certaine attirance. Le pangolin, il attire plutôt de la sympathie, il est étrange, mais au bout de quelques temps, on l'oublie, parce que on pense que finalement, il y a plus important. Et typiquement, le pangolin montre l'erreur que l'on commet régulièrement, hein. Il y a des tas de choses auxquelles on pense quotidiennement et qu'on n'oublie pas le lendemain. La biodiversité, malheureusement, n'en fait pas partie.
Alors que justement, cette COP15 de la biodiversité démarre en Chine. Le destin du pangolin a-t-il changé dans ce pays? On voit ça avec Stéphane Pambrun, c'était ce matin, dans le journal de 6h30 sur Inter.
L'épidémie de Covid-19 a évidemment changé la donne. La possible transmission du virus de l'animal à l'homme a poussé le gouvernement chinois à durcir la réglementation. Dès le mois d'avril 2020, la Chine a interdit la vente et la consommation de certains animaux comme le pangolin, les serpents et les civettes. Li Shuo est responsable de Greenpeace en Chine.
Cela a toujours été une situation complexe dans le contexte chinois. Bien sûr, c'est une question de protection de l'environnement et c'est devenu une affaire de santé avec le Covid-19. Mais c'est aussi une question économique et de moyens d'existence et donc une affaire de bonne gouvernance.
Car la Chine est au cœur d'un trafic mondial d'animaux sauvages estimé à 160 milliards d'euros par an. En 2003 déjà, après l'épidémie de SRAS, la Chine avait promis d'y mettre fin, mais cette fois sous l'œil de la communauté internationale, elle espère bien y parvenir. Selon l'ONU, il faudrait pour cela placer 30% de la planète en espace protégé.
Voilà l'exemple du pangolin, puisque derrière le pangolin, il y a d'autres espèces, évidemment, mais c'est vraiment un animal qui a focalisé l'attention à un moment et qu'on a complètement oublié depuis. Hein.
Oui, tout à fait. C'est le mammifère le plus braconné au monde. Hein, donc des centaines de milliers d'individus chaque année qui sont tués, soit pour des questions de consommation de viande de proximité, ce qui peut se comprendre, ou pour des pharmacopées un peu farfelues, ce qui se comprend nettement moins, si ce n'est au plan culturel. Ouais. Et le pangolin, finalement, c'est la partie émergée de l'iceberg. Hein. Les trafics d'animaux sont une quantité colossale de biodiversité, hein, qui transite de pays en pays et qui, évidemment, les transits qui sont facilités par la mondialisation.
Justement, Virginie Maris, est-ce qu'il faut des espèces mignonnes comme le pangolin, on en a déjà parlé dans l'émission avec Camille en particulier, pour sensibiliser l'attention du public?
En tout cas, c'est un peu ce sur quoi ont misé de nombreuses organisations environnementales avec des espèces totems. On peut évidemment penser aux pandas, aux grands pandas. Je suis assez sympathique à l'affection, à l'empathie que produisent ces espèces totems. On va dire que aujourd'hui, dans la communauté scientifique, on peut avoir peut-être un petit peu de condescendance ou un petit peu, en tout cas, de réserve par rapport à la façon dont ces mignonnes petites espèces. Alors parfois elles sont mignonnes, parfois elles sont plus impressionnantes, mais en tout cas elles ont quelque chose de charismatique. On peut avoir l'impression que finalement c'est quelque chose qui est assez naïf et qui produit des effets problématiques, notamment parce qu'on ne pense pas les espèces dans leur milieu ou parce que, d'un point de vue écologique, les espèces qui suscitent ce type de sympathie ne sont pas les plus pertinentes ou les plus urgentes en termes de conservation, etc. Moi, j'ai l'impression que ces espèces auxquelles on a une certaine facilité, avec lesquelles on a une certaine facilité d'empathie, soit parce que on peut finalement projeter sur elle certaines émotions, certains souvenirs. Il me semble que c'est un premier pas, que c'est une sorte de porte d'entrée assez facile, pas suffisante, mais importante pour se décentrer un petit peu, pour se rendre compte que nous faisons partie d'une communauté bien plus large que les seuls êtres humains, et donc que, ne serait-ce que parce qu'on est capable de s'émouvoir infiniment pour un petit pangolin, pour même parfois des animaux beaucoup plus simples, des animaux de compagnie par exemple, je pense que c'est un exercice qui nous montre, qui nous prouve de façon évidente à quel point finalement les êtres humains sont partie prenante d'une aventure et d'une communauté bien plus large. Et en ce sens, j'ai tendance à trouver ça assez important de continuer à communiquer sur ces espèces mignonnes ou charismatiques ou importantes dans l'imagerie populaire. Simplement, il faut que ça ne soit qu'un premier pas, et notamment qu'on puisse, à travers ces espèces-là, sensibiliser d'une part à la diversité des interactions et au fait qu'il n'y a jamais un panda géant ou un ours polaire tout seul, mais qui sont dans des milieux, et ensuite qu'il y a aussi tout un cortège d'espèces moins visibles, moins charismatiques, moins impressionnantes.
On va en parler avec vous dans un instant, puisqu'on parle de la représentation de la biodiversité. C'est le dossier cet après-midi de la Terre au Carré, avec vos messages sur le site de l'émission et sur l'application France Inter, avec vos notes vocales. est tombé pour la scène. C'est l'impératrice avec Thierry Dupin qui signe la programmation musicale de La Terre au Carré.
La Terre au Carré. Sur France Inter.
Les conclusions des scientifiques sont sans appel. La Terre a débuté sa sixième extinction de masse. Sur les 8 millions d'espèces animales et végétales présentes sur Terre, entre 500 000 et 1 million pourraient être menacées d'extinction dans les prochaines décennies. Durant ces 500 dernières années, on estime qu'environ 680 espèces de vertébrés ont déjà disparu.
Voilà, c'était France 2 en avril 2019. Philippe Grandcola, comment est-ce qu'on sort finalement de ce qu'on vient d'entendre, finalement, de ces termes de crise majeure, d'effondrement, d'extinction des espèces pour arriver à dépasser ça? Parce qu'on voit bien que ça n'a plus de prise aujourd'hui finalement sur les esprits, c'est même parfois contre-productif. Donc comment on fait en sorte d'embarquer au fond la population, comme les décideurs, sur la réalité de la biodiversité aujourd'hui?
Alors je pense qu'en toile de fond, il y a un problème de perception et de compréhension du sujet. Et comme vient de le dire Virginie Maris, en fait, on est dans des systèmes écologiques dans lesquels toutes les espèces sont interactives. Et le fait d'en retirer certaines, défait la tapisserie. On tire un fil et puis le reste se débobine. Et on commence à le percevoir dans un certain nombre de cas, avec l'émergence des maladies infectieuses, avec la baisse de production de certaines cultures, faute de pollinisateurs, etc. Donc je pense que ça émeut une plus grande partie de la société, y compris des décideurs, parce qu'ils voient bien qu'il y a un problème qui va émerger, un problème économique grave, un problème humain grave. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a toujours à la base une espèce de distance qui demeure. Quand on parle d'extinction, quelquefois on entend des discours qui se veulent rassurants et qui disent « oui, c'est pas encore arrivé, on est tout début ». Effectivement, à force de dire que ce n'est pas encore arrivé, effectivement, il y a un certain nombre d'espèces qui sont en fort déclin. Elles sont pas disparues à proprement parler, mais doit-on attendre quelques décennies de plus pour s'apercevoir qu'effectivement, 1 million d'entre elles seront, cette fois-ci, auront tellement décliné qu'elles seront, pour ainsi dire, vraiment éteintes.
Mais cette notion de sixième extinction, elle est discutée au sein même de la science, d'ailleurs. Tout le monde n'est pas d'accord sur le fait de dire qu'on est déjà dedans ou qu'on s'en approche.
Moi, ça me semble être une discussion finalement assez stérile. C'est-à-dire, si on est situé sur une espèce de courbe où on voit la quantité d'espèces qui s'approche de la asymptote extinction, savoir si on est au point numéro 2 ou au point numéro 3 de la courbe, ça semble quand même assez futile. Quelque part, on sait tous, et là, il n'y a pas de doute dans la communauté scientifique là-dessus, qu'on est dans une situation de crise, que tous les phénomènes vont extrêmement vite, qu'il s'agisse de pollution, de conversion des milieux, donc déforestation, suppression des zones humides, suppression des haies, etc. On est dans une situation qui est calamiteuse, et finalement, les déclins des espèces, des organismes vivants, c'est juste la conséquence mesurable de toutes ces problématiques.
Camille, pas mal de messages.
Sur Instagram, on vous a posé cette question. À quoi sert la biodiversité? Je vous donne quelques réponses. Jean-Luc, à l'équilibre universel. Yvan, à équilibrer la nature. Pascal, à ce que le vivant le reste et longtemps. Et Sylvain nous dit, on ne le saura que lorsqu'il n'y en aura plus assez pour notre survie. Virginie Maris, est-ce que vous pensez que notre question à quoi sert la biodiversité est bien posée?
C'est une question en tout cas qui a occupé beaucoup la communauté scientifique et l'interface entre science et politique ces 10 dernières années à travers la notion de service écosystémique. On s'est dit, puisque les gens ont du mal à percevoir l'importance qu'il y avait à préserver des milieux naturels en bon état de fonctionnement, on va évaluer finalement le bon approvisionnement que les écosystèmes fournissent aux êtres humains en termes de services. Alors ça peut être des ressources, mais ça peut être aussi des fonctions comme la pollinisation, le cycle du carbone, etc. Quelque part, je pense que ça a déverrouillé certains esprits. Ça a permis aussi de montrer que la destruction avait un coût, là où en général la destruction passe pour gratuite et seuls les avantages, les bénéfices économiques sonnants et trébuchants sont pris en compte. Donc quelque part, oui, ça peut être utile de montrer à quel point nous dépendons dans notre économie et plus profondément dans notre survie, dans notre bien-être.
Mais est-ce que
le bon
fonctionnement
des écosystèmes,
est-ce qu'à contrario, Philippe Grandcola, ça contribue pas quelque part à se détacher de cette biodiversité, en faire qu'un élément extérieur à nous, êtres humains en tout cas?
C'est vrai que tous les discours dans lesquels on essaye d'insérer des informations, ils portent en eux des qualités, des défauts. Comme vient de le dire Virginie, ça montre qu'on en a absolument besoin de la biodiversité. C'est vrai qu'un esprit utilitariste de fait pourrait penser que si on s'arrange pour satisfaire nos besoins besoin immédiat, tout va bien. Et c'est là où ce que l'on appelle la valeur d'option, la biodiversité, c'est-à-dire non plus ce à quoi elle est utile aujourd'hui même, hein, pour autant que l'on connaisse toutes ses utilisées, parce qu'il y en a vraiment
beaucoup. On ne connaît pas.
Hein. Voilà, qu'on ne connaît pas. Mais on ne connaît pas non plus celle de demain, bien entendu. Hein. On découvre tous les jours des maladies dont certains organismes sont vecteurs. On découvre tous les jours des molécules qui peuvent servir en termes de médicaments et qui sont issues d'espèces végétales ou d'espèces marines, par exemple. Donc ces usages-là, en fait, on doit prendre en compte et se rendre compte en fait que la valeur de la biodiversité, c'est pas seulement la valeur au temps présent, c'était aussi sa valeur future. Évidemment, elle est présumée, hein, elle est hypothétique, mais elle est mesurable par des moyens scientifiques. Donc c'est aussi un complément finalement à l'utilitarisme qui serait un petit peu à courte vue, on va dire.
Virginie Marie, ici un message de Benjamin sur franceinter.fr, il dit « J'ai l'impression que l'homme se donne le rôle d'observateur de la biodiversité, mais qu'il en oublie qu'il en fait partie intégrante et que préserver la biodiversité, eh bien c'est se préserver soi-même. » Qu'est-ce que vous en pensez?
Dans une certaine mesure, ça revient à ce qu'on a évoqué par rapport à cette approche par service écosystémique, c'est de dire que les milieux naturels sont notre milieu et leur bon fonctionnement est la condition sine qua non du bon fonctionnement des sociétés humaines. Une fois qu'on a dit ça, il me semble pas inintéressant de noter tout de même que si les êtres humains font partie de la nature ou de la biodiversité, ils en sont tout de même des acteurs bien spécifiques qui ont un mode d'organisation, des rapports à la technologie, à la transmission des connaissances qui sont très très spécifiques. Et donc moi j'ai tendance, c'est pour ça que j'aime finalement assez bien ce terme de nature, j'ai tendance à ne pas me satisfaire simplement d'un slogan qui dirait nous sommes la nature qui se défend, les humains et la nature c'est une seule et même chose, ou les humains font partie de la biodiversité, parce que quand on regarde notamment sur les 100 ou 200 dernières années l'impact des activités humaines sur le monde naturel, alors là il ne faut pas parler des êtres humains en général, mais peut-être du monde de la modernité occidentale, extractiviste, capitaliste, quand on voit ce qu'on a été capable de faire, on est complètement sorti de route en termes de naturalité, de rapport écologique au monde. Donc il y a un petit peu les deux faces de la pièce, à la fois nous faisons partie de la nature, nous en sommes dépendants, mais à la fois nous avons et nous agissons encore d'une façon qui est tellement anaturelle, tellement extra-écologique, que cela nous impose des responsabilités, des égards très très spécifiques, et à mon avis ce sont ces égards, ces responsabilités qu'il s'agit aujourd'hui de mettre à l'avant-scène de la politique et pas simplement de nos vies personnelles.
Allez, on réfléchit ensemble cet après-midi à cette question de biodiversité, à nos représentations, avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent.
France Inter. La Terre au carré.
Et à 14h32, Camille passe au vert, Camille Cronier.
Avec une marche des terres, est-ce que vous connaissez ?
Faites du bruit pour nos jardins !
Voilà, c'était ce dimanche, des centaines de personnes rassemblées devant l'hôtel de ville de Paris après avoir marché du nord, de l'est, de l'ouest ou du sud jusqu'à la capitale. Enfin marché.
Alors nous, on a pédalé. On a fait 60 km en vélo.
Voilà, à pied ou à vélo. Tous ont convergé de la grande banlieue parisienne pour dénoncer l'artificialisation des sols agricoles en Île-de-France.
C'est irrémédiable. Une fois que le béton est coulé, c'est trop tard. Il faut des milliers d'années pour récupérer des terres. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Et c'est très, très, très important.
Vous avez l'impression que les pouvoirs publics n'entendent pas tout ça ?
Non seulement ils n'entendent pas, ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas, mais en plus ils font exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Voilà, on nous roule dans la farine et les décisions sont prises de façon complètement opaque. Ils sont complètement de notre gueule. Excusez-moi, mais je vais crier là.
Les escargots, qui a peur des escargots ?
Qui a peur des escargots, chante Aline et les autres manifestants. D'ailleurs, elle en tracte même un escargot géant sur une charrette. Escargot, symbole de la décroissance selon eux. Ralentir le rythme de la bétonisation, 1500 hectares par an d'après la Chambre d'agriculture. Ils sont opposés, tous ces manifestants, à plusieurs projets et les pancartes étaient variées pour l'afficher.
Des légumes, pas du bitume.
Stop béton.
Des champs pour nos paysans.
Tony, range ton canoë, non au JO 2024.
Les Jeux Olympiques donc, mais aussi les aménagements prévus par le Grand Paris Express, notamment la future ligne 18 de métro dans le sud, sur le plateau de Saclay.
On ne veut pas de métro sur le plateau de Saclay. Cette ligne 18, elle est 10 fois
surdimensionnée, enfin 10 fois plus grosse que ce qu'elle devrait être. Le besoin de transport, il est pour 4000 personnes et là, on a un moyen de transport qui est 40 000 personnes heure de pointe. C'est à partir du moment où on met un métro surdimensionné, c'est dans le but d'urbaniser. Ça, c'était ce qu'on faisait avant, quand on voulait étendre la métropole du Grand Paris. Et à un moment, on se rend bien compte, avec l'urgence climatique, qu'il faut arrêter de tout concentrer sur la région parisienne.
Et à ceux qui se demandent encore pourquoi ils ne veulent pas de cette urbanisation, voici les explications d'un manifestant qui m'a alpagué, comme on dit.
Vous n'avez pas la terre au carré ?
Si, absolument.
Ah, bah alors, je vais vous dire quelque chose.
Ah, dites-moi.
Alors, je suis Cyril Girardin, je suis spécialiste de sciences du sol, je travaille à l'INRA. Et ce qu'on est en train de faire sur le plateau de Saclay, c'est absolument un écocide. Parce qu'on détruit des sols limoneux qui ont une excellente qualité agronomique, sont des terres très fertiles. Et du coup, aujourd'hui, sont quand même 500 hectares qui sont en cours d'urbanisation, sont vraiment des sols qui sont aménagés sans discernement. C'est-à-dire, on n'est pas du tout contre les aménagements. Il faut des aménagements en région parisienne et on n'a rien à dire là-dessus. Sauf que ces aménagements se font sans considérer la qualité des sols.
Alors les pouvoirs publics promettent pourtant zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'il y aura des compensations. Vous savez, c'est un peu comme les promos au supermarché. Pour un hectare détruit, un hectare renaturalisé. Mais Jeanne n'est pas convaincue du tout.
Ça ne nous satisfait pas du tout de dire « Ah ben maintenant on urbanise 600 hectares par an une fois les compensations déduites », de nous dire « Oh avant on en était à 2500 hectares ». C'est pas satisfaisant, on a envie de répondre bah, « Justement, ça va comme ça, vous avez suffisamment urbanisé par le passé. Là, maintenant, il faut mettre la barre beaucoup plus bas, diminuer beaucoup plus rapidement et drastiquement l'artificialisation. »
Pas dupe non plus au nord de Paris, le triangle de Gonesse où, souvenez-vous, le projet de méga-complexe Europa City a été abandonné il y a 2 ans, mais visiblement pas celui de bétonner la zone en partie.
L'abandon d'Europa City, ça n'a pas empêché les projets à la con pour Gonesse.
Voilà, là aussi, il y a un projet de métro, par exemple la ligne 17 qui devrait permettre la liaison en 2030 avec l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Liaison que le gouvernement défend, Jean Castex y était au printemps, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal il y a quelques jours. C'est alors que la justice recommande la suspension des travaux, on attend d'ailleurs la confirmation dans les jours qui viennent. Bernard Loup du collectif pour le triangle de Gonesse fulmine.
Ils cherchent comme des malades à justifier cette gare. Ils sont au milieu du guet, ils ont abandonné Europa City. Si ça avait été une position écologique, ils auraient abandonné la gare. La gare, elle est dans les champs.
Et oui, elle est au milieu de nulle part pour l'instant. Mais Sylvie, comme les autres, ont bien compris que ça ne sera que le préalable à un autre projet donc de bétonisation. Et elle en a un petit peu marre des discours hypocrites.
C'est complètement inadmissible de faire croire à la population française, en faisant des chartes, en faisant des grands discours, qu'on va s'occuper de l'écologie, qu'on va s'occuper du bien-être des gens au niveau de la nutrition. Et puis d'à côté, de tout faire pour bétonner les sols les plus fertiles de France.
Tous demandent un moratoire sur tous les projets, le temps de décider ensemble, ils insistent, à décider des solutions pour préserver au maximum ces terres nourricières.
Voilà, et le sol, on en parlera demain d'ailleurs dans l'émission avec Marc-André Sellos. Et si vous souhaitez réagir à ce sujet, vous pouvez appeler le répondeur au 01 56 40 45 45, Camille Cronier.
Philippe Grand-Cola, ces discours, je parlais de zéro artificialisation nette, le petit mot net qui est mis derrière. Pour vous, c'est ça qui vient fragiliser en fait toutes ces promesses affichées par les pouvoirs publics ?
Si on était dans un monde idéal où l'état de l'environnement est, on va dire, est meilleur, hein, et où on ne serait pas dans une situation d'urgence faute d'immobilisme depuis pas mal d'années, on pourrait effectivement le raisonnement, la compensation est un raisonnement qui, sur le plan logique, se tient. Le souci, c'est quand on est déjà dans une tendance qui est extrêmement négative, évidemment, on a moins tendance à accepter un raisonnement de substitution, hein, alors qu'on est dans une bétonisation qui va croissante. Donc c'est là tout le nœud du problème, je pense. Aujourd'hui, on est dans une situation qui n'est plus gérable de manière raisonnable et lente. Donc ça implique un certain nombre d'efforts et de mesures qui sont certainement un peu plus drastiques que la compensation.
Virginie Marie, c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on entend, c'est que finalement la société, ces gens qui descendent dans la rue, sont beaucoup plus raisonnables que nos hommes politiques qui, eux, veulent continuer finalement cette course effrénée qui nous mène droit au mur quand même.
Oui, puis on entend une diversité de propos parmi ces manifestants, mais entre autres une demande explicite de mise en cohérence entre les discours et les actes, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est face à des décideurs qui, à chaque occasion, à chaque nouveau sommet, à chaque nouvelle conférence des partis, nous abreuvent de discours sur l'importance de la biodiversité, du climat, etc., et qui, au quotidien, par par de façon brutale et répétée, prennent des décisions qui vont à l'encontre de à la fois ce qui serait raisonnable d'un point de vue écologique et ce qui serait désirable et qui est aujourd'hui désiré et demandé du point de vue social. Donc sur l'artificialisation, on est vraiment dans une posture, alors soit schizophrène, soit hypocrite, où effectivement on veut faire passer des textes de loi sur le zéro artificialisation net, qui est à appliquer une logique comptable qu'on applique déjà sur le carbone, qu'on applique déjà sur les destructions d'espèces protégées, en imaginant qu'on va compenser à droite ce qu'on détruit à gauche. Et puis, en même temps, des projets sur le Grand Paris, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres, des projets routiers et autoroutiers, des plateformes logistiques qui sont des hectares et des hectares de terres fertiles qui partent au béton pour faire des hangars. Donc là, vraiment, je pense qu'il y a à la fois une urgence écologique et une exaspération sociale face à ce double discours, en tout cas à ce décalage entre les discours et les actes. Well, you just think that I... Some great survivor, and you just build upon the lies that carry you. Well, I don't even talk that way. See, I wanted you to stay and show you the world's a better place. And as we call to find our way, we even take the shape of something else.
Ratcliffe and the Night Sweats à l'instant avec Survivor.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Philippe Grandcola et la philosophe Virginie Maris, nos invités pour parler de la représentation de la biodiversité. Virginie Maris, une question rapide avant de passer au message des auditeurs. Comment se fait-il finalement que les humains n'ont toujours pas l'impression, dans leur grande majorité, de faire partie justement du vivant ? Et d'en être extrait en ayant une position tout à fait particulière.
Ben, On pourrait dire que d'abord, plus que de parler des humains, parlons plutôt de nos sociétés et peut-être de la civilisation occidentale, mais il est fort probable que ce ne sont pas tous les humains qui se sont comme ça mis à part du monde naturel. Il semble que ce soit plutôt un trait de nos sociétés, à la fois qui serait hérité peut-être de la tradition judéo-chrétienne et puis renforcé par la science moderne avec cette idée effectivement que nous serions les seuls êtres rationnels, peut-être les seuls êtres créés à l'image de Dieu, diront certains, et que ce faisant, nous avons la place en haut de la pyramide du vivant. Alors, est-ce que vraiment nous partageons cette idée-là autant qu'on le dit? Moi, je pense que on est très souvent dans notre expérience quotidienne confronté à notre caractère complètement intégré dans le reste du vivant. Philippe Grandcola a rappelé finalement ce que ça a produit, cette épidémie mondiale sur nos organisations. On s'est bien rendu compte qu'on était liés les uns aux autres d'une façon beaucoup plus intime que simplement comme des maîtres face à leurs artefacts ou à leurs possessions, mais également dans notre vie de tous les jours, en fait, notre rapport, la façon dont on respire, dont on se meut, dont on s'émeut aussi de notre contact avec les êtres naturels, sont autant de symptômes finalement de notre inclusion dans une famille beaucoup plus grande, beaucoup plus large que les seuls êtres humains.
On a un message de Pierre sur l'application France Inter qui nous écrit: Marc, une partie de l'humanité voit encore la planète comme un jardin à son bénéfice et la nature à son service. Qui est l'imbécile qui a soufflé cette idée? Philippe Grandcola, vous pouvez répondre à Pierre.
Alors, je ne connais pas l'imbécile par son nom particulier, non, mais c'est vrai que c'est une idée, malheureusement, qui est apparue dans les sociétés occidentales, comme vient de le dire Virginie, et qui s'est développée avec l'excès de confiance qu'on a en nous-mêmes, depuis la Renaissance, en fait. Alors, ce fameux mot que l'on prête à juste titre à René Descartes, mais le pauvre, il a probablement été aussi traduit par ses commentateurs, maître et possesseur de la nature. Et effectivement, c'est une idée dans laquelle on retrouve tout l'essor technologique de la Renaissance, puis de la révolution industrielle, et qui nous conduit aujourd'hui à penser que nous sommes capables de gérer la totalité du globe terrestre, ce qui s'avère d'autant plus difficile que nous approchons aujourd'hui les 8 milliards d'êtres humains, et donc à puissance égale, nous exerçons une pression qui est infiniment plus importante que celle d'il y a simplement 50 ou 100 ans.
Il y a un nom évidemment très important pour vous en tant que systématicien évolutionniste, c'est celui de Charles Darwin, parce que évidemment, et vous le rappelez d'ailleurs, c'est peut-être le problème du mot biodiversité, c'est qu'il ne reflète pas suffisamment l'idée d'évolution.
Oui, c'est un paradoxe. C'est vrai que l'évolution biologique, quand on en parle, on pense à des stéréotypes, des choses qui se déroulent sur des millions d'années avec des animaux disparus comme les dinosaures ou bien les hommes préhistoriques il y a quelques centaines de milliers d'années. En réalité, l'évolution, elle nous touche tous les jours avec, par exemple, les variants de la Covid-19 ou tout simplement les antibiorésistances, et tous les organismes que nous avons autour de nous évoluent. Nous-mêmes, nous transmettons, alors les estimations varient selon les études, mais de 50 à 100 mutations à nos enfants. Donc, il n'y a pas un individu qui serait exactement identique à l'autre, si ce n'est dans des clones fabriqués au laboratoire. Et cet élément-là n'est pas pris en compte, cette nature dynamique de la biodiversité n'est pas prise en compte, sauf quand on se retrouve placé, évidemment, devant le problème, comme avec l'échappement vaccinal, par exemple, pour la Covid-19. Ouais. Et effectivement, la définition de la biodiversité est un peu, finalement, statique. Et on ne dit pas d'où vient cette diversité. On se contente juste de dire qu'elle existe et qu'elle est partie prenante d'un aspect fonctionnel dans les écosystèmes, mais on ne parle pas de son origine. Alors est-ce que c'est parce que finalement la biologie de l'évolution, la théorie de l'évolution biologique, c'est quelque chose qui n'est pas accepté par l'ensemble de l'humanité pour le moment, hein. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui il y a peu de platistes, il y a peu de géocentristes, mais il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que le monde a été, et que l'homme en particulier, a été créé par une divinité, de manière littérale, bien entendu, et ça entraîne une difficulté d'adhésion à une vision de la biodiversité qui évoluerait de génération en génération.
Un autre message de Gérald, cette fois sur Facebook. Pensez-vous réellement que la sauvegarde de la biodiversité est possible? Le prédateur qu'est l'homme industriel et tout ce qui va avec agit. Est-ce que vous pensez qu'il peut agir dans ce sens face à cette urgence climatique? Très peu d'actions concrètes et drastiques sont faites. Virginie Maris, vous pensez que cette sauvegarde de la biodiversité est possible, pour reprendre les mots de Gérald?
De toute façon, il y a déjà énormément de milieux et d'espèces qui ont disparu ou qui sont condamnées à disparaître. La question aujourd'hui, c'est un peu de limiter les pots cassés. Après, ce qui est assez surprenant et enthousiasmant quand on s'intéresse à la protection de la nature, c'est l'incroyable capacité du vivant, des milieux naturels, des populations sauvages à recouvrer des dynamiques. Donc on le voit à petite échelle, dès qu'on enlève quelques entraves sur un cours d'eau, on a des poissons migrateurs qui reviennent, on a la loutre, le castor qui ont recolonisé plein de milieux. Donc ce qui est encourageant et qui est peut-être un petit peu pour moi signe d'espoir par rapport à la grande inertie par exemple des changements climatiques, c'est que dès qu'on cesse la pression, la surexploitation, l'artificialisation des terres, on voit des dynamiques se mettre en place extrêmement réactives, extrêmement créatives.
Alors c'est peut-être un point petit, de discorde avec Philippe Grandcola. Virginie Maryse, pardon de vous couper, oui. Mais c'est vrai que j'observe aussi Philippe Grandcola, parce que on parlait hors antenne de la résilience, de ce concept de résilience. Vous faites allusion à ça, finalement, dans ce que vous nous décrivez là. Et il n'est pas tout à fait d'accord avec vous, Philippe Grandcola.
Mais en fait, oui, je ferai une réponse de Normand. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est vrai que les écosystèmes ont une capacité de regagner du terrain. Néanmoins, quand on observe ce qui s'est passé et ce qui se passe encore à l'échelle du globe, les millions d'hectares de forêts tropicales, par exemple, moi, dans lesquelles j'ai travaillé pendant 30 ans, qui ont disparu, portaient en eux des milliers d'espèces qui, elles, ne reviendront jamais. Voilà. Donc, effectivement, moi, j'ai travaillé au Brésil, par exemple, dans l'état du Paraná, où il y a des splendides travaux de reforestation qui sont faits par des écologues et brésiliens qui font des merveilles. Donc, sur un sol très fertile, après 20 ans, on a un très beau couvert forestier, mais avec un contenu qui appauvrit à 90%. Voilà. Donc,
par exemple, qu'est-ce qu'il y a disparu comme espèce,
par exemple. Beaucoup d'espèces d'insectes, un certain nombre de vertébrés, la plupart des plantes épiphytes. Voilà, toutes les espèces qui n'ont pas cette capacité à recoloniser, ou toutes les espèces qui ont des aires de répartition qui, à l'origine, étaient suffisamment petites pour avoir été complètement effacées par la déforestation, ces espèces-là ne reviendront pas, même si on fait ça de manière intelligente, avec des corridors, avec toutes les dispositions nécessaires.
Virginie Maryse, je vous fais rebondir du coup, parce que je vous ai coupé la parole.
Oui, mais en fait, j'ai vraiment commencé par dire que ce qui était perdu l'était irrémédiablement et qu'on pouvait limiter les pots cassés. Donc là-dessus, on est entièrement d'accord. Mmh. Et en plus, par rapport l'espèce d'optimisme dont je faisais part, il faut voir aussi que quand on retire la pression, on peut avoir des bonnes surprises si on la retire suffisamment tôt. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de bascule dans les écosystèmes où on a des petits changements graduels qui, passé un certain seuil, font vraiment sombrer, basculer l'écosystème dans un nouvel état, souvent largement appauvri. Et donc, voilà, c'était vraiment un espoir avec des pincettes j'exprimais à ce propos.
Allez, on poursuit notre discussion dans un instant, tous ensemble, avec bien sûr les messages des auditrices et auditeurs de la Terre au Carré. Vous êtes sur France Inter, voici Clara veut la Lune, Alain Chamfort.
Clara veut m'entendre, inventer des mots tendres. Je devrais à chaque instant la surprendre. Et mademoiselle parle de ce pas. Clara dit l'ennui.
Gérard de la Lune, Alain Chamfort sur France Inter et on parle de biodiversité aujourd'hui alors que commence la COP 15 en Chine pour parler justement biodiversité et Camille, les messages des auditeurs.
Oui, un message d'Elisa sur Facebook qui nous parle de la biodiversité des océans, Philippe Grandcola, c'est la pharmacopée de demain, microalgues, venins de coquillages, micro-organismes, des abysses, etc. Vous confirmez qu'il y a évidemment tout un volet lié à la santé, bien sûr, sur la biodiversité.
Tout à fait, bien sûr. La plupart des médicaments sont à l'origine des molécules issues du monde végétal. Donc c'est également vrai pour le monde animal, dans le monde des océans notamment.
Un message de Loïc qui habite à la campagne. Il nous dit « La notion de biodiversité, je la vis au quotidien, notamment dans son déclin. Notre chat n'aura pas de successeur. Ce sont des oiseaux et des lézards préservés. Question de rééquilibrage. » Virginie Maris, ce qu'on peut appeler des petits gestes. Bon là, évidemment, c'est pas tuer son chat, mais en tout cas, c'est pas le remplacer plus tard. Est-ce que ça peut être un élément même pour sensibiliser des enfants qui seraient autour de nous?
Déjà, avant de tuer son chat, on peut lui mettre une cloche. Il paraît que ça aide un petit peu quand même à limiter la prédation.
Non, mais là, on précise que juste, il ne le renouvellera pas.
Ah oui,
hein,
oui,
j'insiste.
J'avais bien compris. Moi, j'ai l'impression que les enfants, déjà, je pense que Philippe Grandcola l'évoque dans son livre, avant de leur apprendre à ce qu'ils font déjà, à éteindre le robinet d'eau quand ils se lavent les dents ou que sais-je, plus que des petits gestes, c'est des attentions. C'est vraiment dès le plus jeune âge, nous permettre à nous, adultes et enfants, de connaître et de comprendre le monde qui nous entoure. Donc voilà, moi, plus que les petits gestes soi-disant écolos, ce qui m'intéresse en termes d'éducation à l'environnement, c'est de comprendre et de connaître les espèces qui fréquentent la cour d'école grâce à des nichoirs ou à des mangeoires, d'avoir des rudiments mais intelligents d'écologie pour comprendre ce qu'il y a dans un sol, comment ça fonctionne. Donc voilà, j'aurais beaucoup plus tendance à miser sur de la connaissance et de la compréhension du monde naturel qui nous entoure que sur les petits gestes écolos dont les modes changent et à mon avis dont les enfants ont pas vraiment, enfin voilà, moi j'ai pas envie qu'on charge les enfants
de
faire les poubelles à nos places.
Très vite.
Justement sur les enfants, message d'Hugo par exemple ou de Raphaël qui nous disent, pour rebondir sur ce qu'on disait au départ, oui, les enfants commencent à parler de biodiversité en primaire, en tout cas à l'école de notre village, dit Raphaël, sans dire par contre d'où elle nous écrit.
Voilà, et bien écrivez-nous ou appelez-nous sur le répondeur au 01 56 40 45 45 pour réagir à ce thème. Le sourire du pangolin, Philippe Grandcola, vous publiez cet ouvrage au CNRS édition ou comment mesurer la puissance de la biodiversité. Et puis Virginie Maris, La part sauvage du monde, penser la nature dans l'anthropocène, c'est publié aux éditions du Seuil. Merci à vous deux.